Bonsoir à toutes et à tous, c'est Urge au bout de la scène, c'est reparti pour une heure et demie en excellente compagnie ce soir puisque nous accueillons Claudine Lebeg.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors quand on a pris soin de lire ton livre et puis d'écouter le disque qui l'accompagne, je vais dire une chose, en attendant qu'une chose, c'est de voir Claudine Lebeg, de l'entendre, parce que il y a une chose moi qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est une écriture très concise, très directe, très belle. Et en même temps, tu parles de la vie de tous les jours, et puis hein, d'où tu viens. Et en même temps, il y a pas de misérabilisme. C'est pas oh c'est triste la banlieue. Non, il y a un espoir dans ta façon de dire les choses, de présenter les choses. Et ça, je trouve ça super.
Bah merci, ça me touche énormément. voilà.
C'est non mais je crois que on a souvent des gens qui parlent de banlieue, même des gens qui font du rap. Et c'est souvent d'ailleurs il commence à y avoir un mouvement un peu qui va dans l'autre sens. Mais c'était souvent le côté noir de la banlieue, mais noir qui avait no future quoi.
Oui. C'est peut-être aussi une histoire de génération parce que c'est vrai que les gens à l'heure actuelle sont beaucoup plus jeunes, c'est une jeune génération qui parle de la banlieue qu'ils connaissent aussi avec tous ces bobos, etc. Et que moi, je parle d'une époque, justement, et c'est ça qui m'intéressait hein, dans le fait c'est d'apporter un témoignage sur une période, on va dire, sur les débuts de la banlieue, en fait, hein, dans les années 60, où il y a eu d'excellents souvenirs, quoi, je pense, pas seulement pour moi, pour beaucoup de gens de banlieue à l'époque.
Oui, je pense que à l'époque où on a créé ces grandes barres, d'abord c'était l'avenir, les HLM, c'était vraiment les gens voulaient aller. D'ailleurs, c'est Ferrat qui le dit dans une de ses chansons. Hein, oui. Tout le monde rêvait d'aller en HLM.
Bien sûr.
Et après, on a fait des bars, on a fait, comme tu le dis, d'une façon très belle, des cages à lapins pour les enfants de la Garenne.
Oui. Bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était dernièrement, j'ai vu une émission qui était magnifique, qui s'appelait Les 50 ans qui ont changé notre quotidien là. Où ça retraçait toute l'histoire de la banlieue et où il y avait beaucoup de témoignages de gens et ça m'a beaucoup intéressé parce que ça tombait pile poil dans ma génération et j'étais surprise et très agréablement surprise de me rendre compte qu'en fait les gens qui témoignaient avaient les mêmes sensations que moi quoi de bonheur d'arriver ces grands ensembles avec tout ce qui se passait c'était des familles quoi à l'intérieur et beaucoup de gens effectivement arrivaient dans les HLM c'était un confort extraordinaire quoi.
Ouais. Oui, c'est famille, hein. Surtout qu'il commençait à y avoir effectivement un chauffage plutôt efficace, il commençait à y avoir des choses.
Bien sûr, un chauffage déjà simplement, il y a des tas de gens qu'on n'avait pas. Hein.
Moi, j'ai pas vécu dans des grandes bars, j'ai vécu dans des HLM en bordure de Paris.
Oui.
Et c'était malgré tout une chose, c'était des villages.
Oui, tout à fait.
Et la Pignole, elle connaissait tout le monde. Mmh. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait, une vie et à la limite, chacun se respectait parce que c'était un village.
Et oui, c'est ça. Oui, les cités étaient des villages, quoi.
Oui.
Ce qui faisait d'ailleurs aussi quelques rivalités d'un village à l'autre, d'une cité à l'autre.
Mais voilà. Et on en voit hélas encore des exemples aujourd'hui.
Oui. Oui, toujours, oui. Dans des actualités, toujours. Voilà, mais c'est vrai que ça me chagrine en même temps. Je suis toujours... j'ai toujours l'impression qu'on pointe très particulièrement, très précisément, les événements catastrophiques en banlieue, alors qu'ils s'en passent quand même partout, parce que moi, je peux vous dire que voilà, j'habite maintenant à Lyon, dans un quartier très doux et où il se passe aussi des choses où j'ai vécu des choses semblables aux banlieues et ça m'agace toujours un petit peu quand on pointe les événements dramatiques sur des banlieues et ce livre là j'avais envie de le faire aussi pour ça et mes chansons aussi parlent un petit peu de ça et de dire oui bah voilà il se passe ça là-bas je pense qu'il se passe des tas de choses partout aussi hein. Je veux pas minimiser les choses ni dire c'est pas vrai mais oui il se passe bien sûr des choses dramatiques comme dans plein d'endroits quoi.
Oui. Alors on va te retrouver avec un premier titre qui est extrait. Alors on a dans le livre pas mal d'éléments d'état civil et puis on a cette chanson État civil. On va l'écouter et puis tout de suite après faut que je fasse quand même un clin d'œil à quelqu'un par la faute de qui tu es ici ce soir.
Ah bah oui, j'espère bien. Oui.
Tout de suite, alors on écoute Claudine Lebeg, État civil.
Je suis né le 26 juin 1956 à 16h à Villeneuve-la-Garenne en banlieue parisienne. Banlieue pourrie, banlieue chérie. Villeneuve est une ville neuve comme ma mère. Je veux dire par là qu'elles ont toutes les deux le même âge, 80 berges, bien bétonnées. Voilà, moi je suis d'ici et toi t'es d'ailleurs. Et Étienne, près de Béthune, il est d'ici, il est d'ailleurs. Et Léon, et Jacques, et Louis, et Marcel, et René, ils sont d'ici, ils sont d'ailleurs. Et Yasmina, elle est d'ici, elle est d'ailleurs. Et Zénaïde, Jacob, elle est d'ici, elle est d'ailleurs. Et Alexandre Joseph, ce grand type laboureur, et Yuan à Paris, du côté de Belleville, il est d'ici et d'ailleurs. Une liste infinie, des noms d'oiseaux de passage, un cortège qui te suit toute ta vie. T'as beau chercher où t'es passé, sur la branche de ton arbre, on est tous en exil dans un état civil. Et Théophile et Armande, instables mais fidèles, dira-t-on, revenus au pays. Oui, quel pays, ici, ailleurs. Et Nicolas à Cayenne, qui cassa des cailloux pour une terre brûlée, au bagne, au bagne, au bagne, il était d'ici, il était d'ailleurs. Et Maria Ben Simon, et Léo Cadilla, et Yvonne Camille, cette fille incertaine, et Célina et Victoria sont d'ici et d'ailleurs. Cette liste infinie, ces oiseaux mon héritage, ce cortège qui me suit, c'est ma vie. Je veux pas savoir où je suis passé, sur la branche de mon arbre. Je vis toujours en exil dans mon état civil. Où je me dis, après tout, peu importe qu'on s'appelle Alexandre, Joseph, Maria, Ben Simon, Zénaïde ou Jacob, allons enfants, allons enfants, allons. Promenons-nous dans les bois, promenons-nous dans les bois.
Voilà, alors Claudine Lebeg. Alors, ce livre, effectivement, s'appelle Amazon. On va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que je voulais faire un clin d'œil à un certain Éric Nadeau.
Voilà, on voulait le faire tous les deux, le clin d'œil, d'ailleurs.
Hein. On lui doit bien
fermons
ça.
Fermons les deux yeux.
Ouais, parce que, bon, c'est vrai qu'Éric, c'est lui qui a fait l'entremetteur. Nous, on n'avait pas la chance de te connaître. Et il nous a dit, vous connaissez pas Claudine Lebeg, c'est super et tout. Et si tu es là ce soir, c'est vraiment par sa faute. Donc, voilà. On va lui tirer les oreilles.
Donc voilà, on va lui dire un
et
grand, grand merci.
Et puis, je voudrais lui dire un deuxième merci, parce que je sais qu'il relaie maintenant sur son site nos invités. Et comme je sais qu'Éric est quelqu'un de très très suivi, très regardé sur son site, eh bien, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que moi, souvent, j'ai râlé contre des gens qui faisaient des revues sur la chanson. Il en reste encore quelques-unes. Et qui ne se sont jamais penchés sur les gens qui... D'accord, on fait un travail de fourmi, mais on travaille sur la chanson aussi. Mmh. Et nous sommes, on a parlé des revues de chansons et jamais ils ont parlé des émissions, des rares émissions qui restent sur la bande FM consacrée à la chanson. Voilà, donc merci Eric.
Merci Eric.
Alors ce livre effectivement s'appelle Amazon. Alors les auditeurs qui nous écoutent toutes les semaines ne sont pas surpris parce qu'ils ont déjà entendu parler de...
Oui.
Ils ont déjà entendu quelques titres d'ailleurs. Et en fait c'est un livre que tu as voulu autobiographique quelque part.
Oui, bah c'est totalement autobiographique, hein. C'est un choix et de dire vraiment la vérité toute nue, quoi, de ma vie, non pas que je pensais que ce serait intéressant pour les autres, loin de là, puisque je l'ai commencé, je pensais même pas qu'il serait édité, quoi. C'était vraiment quelque chose de très personnel. Et c'est sans doute parce que c'était personnel que j'ai vraiment joué le jeu et que je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'écrivais que j'avais à la fois une sorte de détachement et donc d'un regard plus clair, quoi, sur entre autres ma banlieue, voilà, puisque je raconte ma vie depuis ma naissance et que je suis né là, donc il faut le dire quand même, c'est à Villeneuve-la-Garenne, voilà, dans le 92. Et donc j'ai commencé par le début et puis le livre s'arrête à mes 18 ans, donc forcément ça parle, puisque j'ai vécu toute cette période là en banlieue, ça parle beaucoup beaucoup de la banlieue, quoi.
Petite question, il y aura après les 18 ans, il y aura un autre livre?
Ah bah il y en aura même deux autres parce que ça va être des petites tranches de 18 ans et comme voilà, j'ai 3 fois 18 ans, bah on va faire 3 tranches.
Ça c'est super parce que quand on a goûté les 18 premières années, on a envie de déguster les autres.
Ah bah.
Alors, il y a une chose, justement, j'ai un défaut parmi beaucoup d'autres, c'est que je fais de la photo. Ah. Il y a un texte, le texte sur la photo de famille, qui m'a beaucoup touché, parce que souvent les gens disent « Oh, les photos, ça sert à rien !» Et puis, c'est vrai qu'on reprend les photos, et disent plein de choses, les photos. Surtout les photos qu'on pense anodines, les photos, justement les photos de famille. Bon, c'est vrai qu'après le repas, allez, tout le monde se pose. C'est vrai que ça, c'est une chose qui me gonfle. J'ai dans ma famille, comme ça, quelqu'un qui, à la fin du repas, allez, resserrez-vous, je fais une photo.
C'est toujours la même photo, oui.
Mais, en même temps, des photos comme ça, sur la plage, ou des, ça trahit et ça traduit plein de choses, plein d'émotions, plein de choses annonciatrices de l'avenir.
Ah oui, c'est... Moi, enfin, forcément, je suis très très sensible à ça aussi, puisque je suis né dans un studio de prise de vue, hein, puisque mon père était photographe, et que dans ce livre, donc souvent, je fais en fait comme des petites photos. Et d'ailleurs, ce livre est traité comme un album photo, avec des textes à chaque fois. Certains, quelquefois, qui décrivent effectivement des photos. Une photo où, voilà, je la décris. Et oui, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'en plus, selon les époques et selon les techniques de photo, justement, elles traduisent des choses très très différentes. Ah oui. Hein, et que l'instantané et le Polaroid ont été pour beaucoup, enfin il y a eu un énorme virage, je trouve, à ce moment-là dans la façon de prendre des photos. Je parle la photo souvenir, enfin après je parle pas du travail artistique,
oui,
qui lui aussi bien sûr a beaucoup changé.
Je pense qu'aujourd'hui, enfin moi j'ai travaillé l'hyposulfite de sodium, j'ai bien connu et avec son odeur particulière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah comme tout le monde, je travaille en numérique et en fait on arrive à retravailler avec le même esprit quand on travaillait avec les négatifs.
Ça je sais
parce
pas
que,
en fait.
Si on arrive à et puis en plus c'est vrai qu'on cherche à capter la même chose en fait.
Oui.
C'est le matériel qui change, mais l'envie de capter à tel moment telle chose, ça n'a pas changé.
Ah bah
ça.
Oui, je pense que l'âme artistique ne change pas. Elle reste dans le fond la même, et puis ce sont les instruments qui changent, quoi.
Ouais. Et alors, c'est vrai que ça t'a marqué, en fait, le fait d'avoir un père photographe.
Ah oui, ça m'a...
On le retrouve d'ailleurs dans plusieurs parties du texte. Et puis aussi, alors ce côté, le père qui exigeait que tout le monde fasse du piano.
Voilà, oui, ça, il avait des lubies comme ça, c'était quelqu'un de très paradoxal, quoi, qui avait une forme de d'engagement vraiment, enfin c'était quelqu'un qui défendait énormément les idées de gauche, etc., et qui était extrêmement ouvert à des tas de choses, et puis par moments il avait sur d'autres choses il avait des espèces de rigueur, des choses extrêmement voilà, enfin perturbante pour nous parce qu'on n'avait pas le choix, quoi.
Oui. Hein,
personne n'avait le droit à la parole, comme les voyages organisés dans lesquels ils nous envoyaient, par exemple, mais aussi, par exemple, la musique. Donc c'était, on a tous eu le droit à 8 années de musique obligatoire, de piano obligatoire, sans même savoir que c'était pas obligatoire pour tout le monde. Moi j'ai mis des années avant de savoir que les copains et copines, le mercredi, enfin le jeudi, à l'époque c'était le jour de congé, le jeudi, que tout le monde n'allait pas à la musique, quoi. Donc quand on s'en est rendu compte...
Et tu dis d'ailleurs que la première année, ça a été une joie parce que tu apprenais à lire en même temps.
Oui, et puis c'était la découverte, et puis parce que, je sais pas, je crois que je le dis pas dans mon livre, mais notre professeur de piano, qui était la même pour nous quatre, on était donc quatre enfants, moi j'étais la plus jeune, et mes frères et sœurs allaient chez Madame du Château. Et alors ça fait rêver, quoi. Donc j'ai voulu aller chez Madame du Château parce que moi je pensais que j'allais faire des châteaux, quoi. Et puis quand on m'a mis sur le piano, bon, j'étais contente, hein, c'était un petit peu comme un château, c'était une découverte, et puis au bout d'un moment, quand il a fallu apprendre, j'étais moins d'accord, et puis il me restait encore 7 ans à faire, quoi.
Voilà. Surtout qu'en plus, c'est comme on fait dans les conservatoires, fallait apprendre le solfège en même temps.
Même avant. Surtout qu'il fallait apprendre le solfège, ouais, avant, quoi.
Et ça, solfège, c'est vrai que quand on ne voit pas l'utilité directe, c'est parfois, oui, ça peut être pénible.
Bah, oui.
Et pourtant, c'est utile, hein.
Ah, c'est très utile. Et moi, j'ai adoré le solfège. Hein.
Et moi, j'ai des regrets aujourd'hui.
Oui. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que moi, l'ayant appris en même temps que la lecture à l'école, c'était un plaisir. J'ai adoré apprendre à lire et à écrire, et j'ai adoré apprendre à lire et à écrire la musique, quoi.
Et c'est comme ça que tu as décidé que tu deviendrais artiste?
Non, c'est comme ça que je l'ai décidé, pas du tout.
Du tout. C'est venu comment alors? Comment tu as abordé le métier?
Le métier, de la scène, je l'ai vraiment appris avec l'accordéon, le jour où j'ai rencontré mon accordéon, hein, parce que c'était une vraie rencontre, quoi. Et ça a été avec après avoir fait mes 8 années de piano, donc j'ai un petit peu fait, voilà, du violon, de la contrebasse, enfin de la grosse caisse dans la fanfare municipale, et puis j'ai plus rien fait. Et pour mon père, plus rien, c'était pas possible.
Oui, c'est ce que tu dis.
Il s'est mis dans une colère noire un jour, et tellement noire que j'avais qu'une journée pour le calmer. Et pour le calmer, comme il était fou d'accordéon, j'ai dit que je voulais jouer de l'accordéon. Et quand j'ai eu cet instrument dans les bras, il s'est passé quelque chose, et vraiment, je pense que c'est là que j'ai su que je ferais ma vie avec, parce que moi j'avais qu'une envie, c'est de partir, de faire le tour du monde, et je me suis dit, mais avec ça je pourrais aller partout, quoi. Ça a été mon premier voyage, quoi.
Ouais.
Vraiment.
Alors on l'entendra tout à l'heure, cet accordéon rouge.
Mmh.
On va écouter la chanson Il est arrivé.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une très belle chanson, j'aime bien la façon avec laquelle il est arrivé d'ailleurs.
Il est arrivé vers les 7 heures du soir. Il est arrivé là, dans ma maison et dans ma vie. Il était là, tout blanc, comme moi, tout plein de boutons, comme moi. Il était là, avec sa petite carlingue dorée sur les bords, avec son petit jupon plissé tout rond au milieu des bretelles que ça donnait envie d'écarter pour voir. Il était là avec ses paillettes, tu sais, comme des étoiles, avec son cuir, avec sa nacre. Il était là. Et je l'ai pas touché. Non, Je l'ai juste regardé. Le lendemain, aux aurores, eh ben je ne l'ai pas pris, non. Je l'ai juste caressé. Et puis, j'ai attendu le jour. Et quand le jour est arrivé, brusquement, je l'ai serré tout contre moi, tu sais, tout contre moi, tout fort, et puis je l'ai empoigné comme un amour fou qui vient de tomber. Je l'ai renversé dans mes bras de toute mon âme et je lui ai tiré le soufflet que je te l'ai fait gueuler. Et moi, eh ben moi de l'entendre gueuler, ça m'a fait pleurer. Et c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai mouché mon nez, je l'ai pris par le callback et on est partis tous les deux, lui et moi, voir un prof pour savoir comment s'y prendre quand on aime comme ça.
Voilà, c'est vrai que la rencontre avec un instrument, c'est quelque chose de fondamental. Sa première guitare, son premier accordéon, c'est vrai que c'est toujours... Alors, c'est terrible parce que c'est une rencontre, on en a envie, en même temps, on souffre. Parce que c'est pas toujours facile à domestiquer, ce genre de choses.
C'est comme l'amour. C'est un peu pareil, c'est comme la première histoire d'amour.
Oui, c'est vrai que on sait pas trop comment s'y prendre.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a des choses aussi dans ton livre, moi, qui m'ont vraiment bouleversé. Il y a le terrain vague. Le terrain vague, c'est vrai que c'est une époque où on laissait les enfants aller jouer sur le terrain vague. Finalement, on avait moins peur qu'aujourd'hui. Bah,
c'est surtout qu'on était encerclés par des terrains vagues.
Mais oui.
Donc, si on ne nous laissait pas aller jouer là-bas, on pouvait jouer nulle part.
Bah, oui.
Et puis, aux abords des terrains vagues, moi, je me souviens, il y avait les petits jardins ouvriers. C'est-à-dire que voilà, donc on allait avec les grands-parents, etc., dans les petits jardins, et puis après on se faufilait, on allait plus loin dans le terrain vague. Quoi.
Ça me rappelle, c'est la rue de la Sardine de Steinbeck, où il parle justement du terrain vague, qui est en fait une deuxième ville pratiquement.
Ah bah oui, c'est même un pays, hein, c'est vrai.
Je pense que je pourrais en parler de la rue de la Sardine. S'il ouvre, tu as ouvert ton micro, Gégé, non?
Oui. GG, on n'est pas, on sait pas.
Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas Bernard, mais GG, il est en mesure aussi de prendre la parole.
Bah oui, ce terrain vague, là, on appelait ça c'était la zone, c'est où il y a le périph maintenant, voilà.
Ah oui.
C'était un grand terrain d'aventure et qui avait une importance quotidienne d'évasion.
Ouais. C'est vrai que la zone, moi j'ai connu ça étant gamin, donc à proximité de Paris, on doit parler de la même, GG d'ailleurs, qui était après le... Enfin maintenant, il y a le périphérique, mais qui était vers Saint-Mandé, enfin entre...
Elle était faite de collines, il fallait grimper et après il y avait un plat et...
Ouais. Ouais. Oui. Et c'est vrai que la zone, c'était quelque chose... De terrain interdit, c'était dangereux, c'était...
Oui, mais tout ce qui fait rêver fait peur aux grandes personnes, c'est vrai.
Oui.
Souvent, hein. Mais moi, je trouve qu'on manque de terrain vague maintenant.
Oui. Oui, oui, oui. Et on retrouve les jardins ouvriers, mais on manque de terrain vague, effectivement.
Parce que le terrain vague, vraiment, c'était des espaces immenses. Ça allait. Ben, y a eu des villes entières qui ont été construites sur les terrains vagues entre chez nous, de Villeneuve, de la fenêtre de notre cuisine, on voyait jusqu'à Sarcelles, qui était même pas encore construit non plus. Enfin, avec ses tours, et on apercevait les premières tours qui se construisaient. C'était du terrain vague qui passait par Épinay, etc. C'était tout ça. C'était des terrains vagues, quoi. Ouais. C'était immense. Hein.
C'est Gougou qui disait « Sarcelles était un nom d'oiseau ».
Ah, c'est beau, ça.
Alors, c'est pareil, tu parles des cités, et il y a une chose dans ces cités, c'est les arbres. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup.
Non.
Et souvent, il y avait un arbre comme ça. Ouais. Et je ne sais pas si tu connais un certain monsieur Antoine Salaire.
Oui, bien sûr.
Antoine, il a une chanson qui s'appelle « Je suis un arbre », où il dit notamment « Je suis une ligne budgétaire ». Et c'est vrai que, bon, allez, on construit une cité, bon, faut mettre quand même, alors on va un petit budget pour avoir trois arbres, quoi.
Voilà, nous on avait un arbre par escalier, quoi. Et on avait de la chance, nous on était juste en face, enfin, en face de la salle à manger, on avait un arbre donc qui a été planté en même temps que moi, si je puis dire. Et là, il y a des travaux en ce moment qui sont en train de se faire, parce que ma mère habite toujours dans le même appartement que celui qu'on avait. Et dernièrement, elle m'a dit, j'ai vu qu'ils avaient mis une bande rouge, il y a des gros travaux de réaménagement, ils avaient badigeonné de rouge l'arbre, je pense qu'ils vont l'abattre.
Oh, c'est vrai.
Et voilà, c'est... Mais bon, c'est voilà, ils en replantent un peu plus, des plus beaux, des un peu ailleurs. Donc, mais enfin, c'est pour dire, voilà, oui, on avait notre arbre et c'était quelque chose, quoi. C'était notre prairie à nous, quoi. C'était notre forêt.
Alors, tu t'es bien prêté au jeu. Tu as apporté plein de gens que ou qu'on connaît un petit peu ou qu'on ne connaît pas du tout.
Bah ouais.
Et là, tu nous as apporté entre autres Sophie Gentil. Alors qui est cette personne?
Voilà, oui, je vous ai apporté Sophie Gentil. On peut dire ça comme ça. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel parce que elle est inclassable. C'est une artiste, mais comment dire moi, quand j'essaie de la décrire, j'ai envie de dire elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas raconteuse, elle est une chanson, elle est un poème, c'est-à-dire que elle est là et elle vous prend à bras le corps et elle raconte, elle raconte aussi très souvent des choses où elle chante, mais ses chansons ont une forme tout à fait particulière, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui mérite très largement d'être connu et que je prends toujours plaisir à faire connaître, voilà, quand je vais quelque part. Donc c'était avec grand plaisir que j'avais envie de vous faire écouter une chanson que j'ai choisie, donc de Sophie.
Eh bien,
Gentil.
On va en profiter.
C'est en vidant le cendrier que nous avions reluqué dans une rue de Tanger où tu pensais à moi. Ah. Tellement que non, je n'y étais pas, mais tes lettres de loin me le souviens si proche. Comme ces escaliers aux épices poudrées qui coloraient tes mots du bleu de ses voilages. Sans même relire ta lettre, je pus suivre ta main caressant mon visage. Mais une valse là, avec toi, mon amour, je n'y pensais plus. Mais une valse là, dans tes bras, mon amour, je n'y pensais pas. Comme ce voyage en corail que je faisais sans toi, le nez derrière la vitre, mes idées défilaient. Quand au hasard d'un pré, la gomme abandonnée, c'est là que je l'ai vue. La caravane blanche, petite et toute ronde, la belle de tes rêves qui brillait dans tes yeux. Là, au hasard d'un pré, comme un clin d'œil de toi, mon amour, c'était elle. Mais une valse là, avec toi, mon amour, je n'y pensais plus. Mais une valse là, dans tes bras, mon amour, je n'y pensais pas. Ta main sur mon épaule, nos visages qui se frôlent, mes hanches se déhanchent en un enchant. Sur une, deux, trois, au milieu du salon. Mes chapelets de souvenirs qui causent de nos amours s'en viennent s'égrener tout au bout de faut plus qu'à recompter nos pas. En une valse avec toi, mon amour, je n'y pensais plus. Mais une valse là, dans tes bras, mon amour, je n'y pensais pas. Soudain, une valse de Vienne au palais merveilleux s'illumine des lustres sur le parquet ciré. Les robes des princesses balochent en Saint-Jean. Valse avec toi, mon amour, je n'y pensais plus. Mais une valse là, dans tes bras, mon amour, garde-moi près de toi. La 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 la.
Sophie Gentil, alors il faut reconnaître que c'est très beau.
Ah oui.
Très jolie voix, très jolie musique.
Oui, très très. Et elle est accompagnée là, Sophie, parce que je le dis parce que je pense que elle est très attachée aussi aux gens qui l'accompagnent et voilà. Et moi je trouve que ce sont de très beaux musiciens quoi. C'est Charlotte Grattard au violon et Nicolas Perra à l'alto, voilà. Qui l'accompagnait sur ce disque.
Et c'est un disque qu'on trouve dans le commerce facilement?
Non. Il faut lui commander et alors je pense j'ai pas relevé toutes les adresses internet des gens que je vous fais écouter, mais je pense que si vous tapez Sophie Gentil avec un S, hein, parce qu'elle est multiple.
Gentil, c'est
comme quelqu'un de gentil mais au pluriel, voilà.
D'accord.
Gentils, Sophie Gentil.
D'accord.
Je pense que vous trouverez des choses et sinon voilà, si vraiment vous voulez lui écrire et vous ne savez pas parce que je connais pas son adresse mail par cœur, vous pouvez toujours m'écrire et je lui transmettrai.
Voilà. Alors bah, on va peut-être déjà donner au moins ton adresse mail.
Bien sûr.
Alors toi, c'est...
Alors,
vas-y, donne...
Mon adresse mail, moi, c'est claudine.lebeg@free.fr, voilà.
Bon,
et j'ai un site ouais. aussi, qui est claudine.lebeg.free.fr.
Et en tapant sur un moteur de recherche, Claudine Lebeg...
On tombe tout de suite sur
le
site.
On y arrive, ça ouais. c'est bien au moins. Tu as des gens qui travaillent pour toi, au niveau du site, au niveau des... Ou c'est toi qui fais les...
Ah non, alors moi, je suis complètement nul en tout ce qui concerne l'informatique. Par contre, oui, je suis plus qu'aidé parce que c'est voilà quelqu'un qui s'appelle Sabine Lee qui a construit mon site, qui me construit tous mes visuels, qui s'en occupe beaucoup et qui a fait des belles choses, je crois.
Et c'est elle qui a travaillé sur la couverture du livre.
Sur la couverture du livre aussi, oui. Oui.
Parce que c'est très beau, c'est un très beau travail graphique.
Eh ben, je pense qu'elle sera contente de l'entendre.
Ben, si jamais elle l'entend pas, tu pourras lui dire.
Bien sûr, oui.
Parce que je sais pas si de Lyon, si on peut nous écouter sur,
ah oui, on peut toujours
sur Internet.
Sur Internet, oui.
Y a pas de problème.
Voilà. Et, si je peux me permettre, j'en profite aussi par rapport à, ce qu'on a entendu, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure qui s'appelait « C'est arrivé » à propos de l'accordéon,
oui.
était accompagnée à l'accordéon par un musicien. C'est pareil, moi je suis très très attaché aux musiciens qui m'accompagnent, et celui-ci tout particulièrement puisqu'il m'accompagne depuis le début, il s'appelle Alexandre Letaou. Et pour moi c'est un merveilleux accordéoniste qui me fait rêver et qui m'inspire très souvent, quoi. et tous les univers sonores, le travail de son et de direction musicale du disque ont été faits par Michel Taïeb, qui est aussi un merveilleux musicien que j'ai découvert à cette occasion et avec qui je prends plaisir à travailler avec.
Bon, alors. Il y a une chose, tu as une façon d'écrire assez directe. Est-ce que c'est une écriture que tu travailles ?
Non, franchement, je peux pas dire ça. Non, non, surtout sur le livre, ça m'est arrivé comme ça, quoi. J'écrivais et d'ailleurs j'écris même maintenant sur mon ordinateur. J'ai écrit ce livre comme ça et j'ai changé quasiment rien. Les choses venaient comme ça. Par contre, c'est une écriture qui est assez proche de mon écriture chanson, enfin.
Oui, oui, parce que d'ailleurs, on passe facilement de l'un à l'autre, du livre au disque,
oui.
Et au texte des chansons sans.
Oui, et d'ailleurs, pour la bonne raison, c'est qu'en réalité, j'ai écrit le livre. À partir du moment où il a été terminé, j'ai décidé d'en faire un spectacle. Et dans ce spectacle, pour que le spectacle existe, j'avais envie, puisque je racontais ma vie, de raconter, de passer par toutes les expériences artistiques que j'avais eues, et entre autres le théâtre, puisque je fais beaucoup de théâtre aussi. Je suis comédienne et chanteuse, auteur-compositeur, donc j'ai mélangé tout ça, quoi. Donc j'ai écrit des chansons pour cette occasion, et les chansons ont été écrites, donc, en me basant sur le livre et sur le spectacle. Voilà.
Alors il y a des thèmes, un qui n'est pas abordé au niveau des chansons, c'est le divorce des parents.
Oui.
Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être moins grave que ce ne l'était à notre époque.
Je pense, enfin c'est beaucoup beaucoup plus courant. C'est
oui.
Même, on va dire...
banalisé presque.
Bah oui, c'est même plus courant que... d'avoir une famille unie, enfin des parents qui restent ensemble toute notre enfance, quoi. Par contre, je pense que la douleur est toujours la même.
Oui.
Mais bien que malgré tout, comme maintenant c'est passé dans c'est très courant.
Il y a moins de culpabilité, peut-être.
Moins de culpabilité et surtout beaucoup plus d'arrangement et d'inventivité au niveau de la garde des enfants, du partage et ce qui était autrefois tellement rare que rien n'était prévu, que les gens n'y avaient pas pensé, que du coup ils savaient pas comment faire et c'était souvent des ruptures très très violentes, quoi.
Déjà, fallait pas le dire.
Il fallait pas le dire, c'est ce qui était notre cas d'ailleurs.
Oui.
Chez nous. Et à vrai dire, d'ailleurs, mes parents n'ont jamais divorcé. Ils ont vécu séparés et puis séparés assez violemment. Mais jamais, ils n'ont divorcé justement pour pas rentrer dans des problèmes ou administratifs ou de, des enfants qui porteraient le nom, enfin, etc. Voilà, pour simplifier les choses, je pense qu'ils l'ont fait aussi beaucoup pour ça, quoi.
Alors qu'aujourd'hui, effectivement, il y a moins de... Enfin, c'est peut-être plus facile, effectivement, de se séparer qu'à une époque.
En tout cas, moins culpabilisant, sans doute.
Ouais.
Hein. Oui.
Ouais.
Je ne sais pas si on peut parler de facilité. Mais...
Et alors, il y a aussi la naissance sous X. Et il y a un texte qui est très très beau, qu'on va écouter dans un instant.
Oui.
Avec justement tout ce côté, on vous fait signer sous X. Enfin, c'est vrai que X, hormis le côté porno quand on
Oui. Le
X, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était vraiment, c'est pareil, quelque chose...
Voilà, et oui, avec cette lettre-là, comme c'est facile de se laver les mains, comme c'est facile de ne rien porter, quoi, en fait. J'avais envie de dire ça, surtout à travers cette lettre. Comment on se défile, comment on ne prend pas ses responsabilités, on fait des choses avec beaucoup de lâcheté, quoi. Mais je tiens à dire que cette chanson, elle a été écrite pour le coup avant le livre. C'est une chanson que j'avais écrite, j'avais fait un petit duo qui a pas duré très longtemps, faute de trop de succès. Curieusement, c'est-à-dire c'était un duo que j'avais fait avec un jeune chanteur qui s'appelle Pierre Luquet, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Les Bêtes Bien Zen, qui est un groupe aussi très intéressant. Et on avait décidé de faire un duo ensemble. On était tous les deux auteurs, compositeurs et interprètes. Et on a fait ce duo qui a tellement bien marché qu'on n'était pas prêts, en fait. On n'a pas pu assurer les dates, donc on l'a arrêté. Et cette chanson, on l'avait donc écrite ensemble. La musique est de Pierre Luquet et les paroles de moi. Voilà, elle s'appelle Sous X.
Sous X, l'abandonné, sous X, l'anonymat, sous X, on laisse tomber, sous X, on reconnaît pas les nouveau-nés,
Sous X, on a nommé Sous X, sans épeler. Sous X, le sans-papier. Sous X, on fait signer les illettrés. Sous X, multiplié. Sous X, c'est scientifique. Sous X, on peut compter ces X fois prouvés. Sous X, on porte plainte. Sous X, pas de témoins. Sous X, pas de contraintes. Sous X, on est tranquille, on risque rien. Le poids sous X au nom du Fils. Sous X, il y a la foi. Sous X, le sacrifice d'une croix. Sous X, vu sur le sexe. Sous X, on peut filmer. Sous X, sans complexe. Sous X, on est classé dans le latex. Des mecs sous X, chromosomique XX ou XY, sous X, normal ou trisomique, sous X, tout est possible, sous X, t'es protégé, sous X, presque invincible, sous X, c'est une histoire d'identité, on est tous unanimes, cette lettre anonyme, on ne l'a pas signée. Autre hasard et crime, assassin ou victime, on est tous impliqués. Cette lettre anonyme, on ne l'a pas signée. Entre hasard et crime, assassin ou victime, on est tous convoqués.
Y a-t-il des choses à dire après?
Non, bah on va arrêter là.
Quand on a écouté Claudine Leveille. Alors, j'aurais quand même très vite te poser une question. Ce livre-disque, on peut le trouver où?
Alors, on peut le trouver chez l'éditeur. Donc, l'éditeur, c'est La Passe du Vent. La Passe du Vent. Voilà, ils ont un site, hein, c'est www.lapassduvent.com, je crois. Et donc, c'est possible de le commander auprès de l'éditeur, c'est possible de le commander auprès de moi aussi.
En allant sur ton site.
En allant sur mon site, voilà. C'est possible de le trouver en librairie, dans certaines librairies, comme par exemple à Paris, ici, il y a Violette & Co, qui est 102 rue de Charonne, voilà, qui l'ont en stock. D'autres librairies lyonnaises, il y a à Lyon, à la Croix-Rousse, il y a la librairie Vivement Dimanche. Et puis sinon, vous pouvez le commander en librairie, bien sûr.
Oui, et c'est toujours bien d'ailleurs d'aller le commander.
Bah oui, moi je trouve
parce
ça bien.
Parce que ça donne des signes d'abord aux libraires et aux éditeurs que ben, il se passe des choses.
Bien sûr, oui. Oui, tout à fait.
Et c'est vrai. Mais parfois, c'est un peu le parcours du combattant pour obtenir...
Voilà, c'est ça.
Mais honnêtement, vous avez, si vous n'avez pas ce livre entre les mains, cherchez-le, trouvez-le. Le livre et le disque, c'est un grand moment de bonheur.
Voilà, il faut dire, donc peut-être, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, que le livre est accompagné du disque, hein, le disque est
voilà,
dedans.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un livre et un disque. Alors par contre, je te dirais une chose, c'est que c'est pas du tout pratique pour les gens qui font de la radio.
Ah bon.
Mais oui, parce que on range le livre
ça.
Avec les livres ou avec les disques.
Ah oui.
On retire le disque du livre.
Ah oui. Moi, je pense qu'il faut retirer le disque du livre. Même pour le lire,
pas.
C'est plus pratique.
C'est bien d'avoir les deux parce que ça permet de le mettre dans la voiture comme ça quand on
démarre. Et ça me fait penser, d'ailleurs, excuse-moi, mais le disque est aussi en vente tout seul et il est édité, donc il a été produit par Evedia. Et c'est pareil, vous pouvez taper www.evedia.com, vous tomberez sur le site d'Evedia qui est le producteur du disque et qui le vend aussi individuellement.
D'accord. Voilà. C'est vendu dans les grandes épiceries Les trucs en cinq lettres là.
Les trucs en cinq lettres.
Ça commence par F,
bah, ça devrait l'être, mais on sait jamais où ça passe. Les gens ont du mal à les avoir dans les grandes. Ouais.
Parfois, c'est là où il fallait les enquiquiner en leur demandant.
Voilà, exactement. Je trouve ça, ce serait très bien de faire ça, d'insister. Oui.
Par contre, je sais pas si tu en as déposé à Publico, qui est le siège de la librairie du Monde Libertaire, mais 145 rue Amelot, mais ce serait bien, parce que je pense que nos auditeurs n'hésiteront pas à y aller.
Eh ben, je le ferai, promis.
Alors, parmi les gens que tu as amenés aussi pour qu'on découvre, il y a Marie Zambon. Alors moi, c'est pas une découverte, parce que Marie... Je l'ai entendu il y a très longtemps avec Michel Bernard. Je suis à peu près sûr à la cave d'Imière. Alors je sais plus, c'était de l'autre côté de Paris. C'était une époque où il y avait Christian Dante et toute la clique qui faisait chanter très bien les gens. Et je sais très bien que j'ai entendu, et peut-être même au Printemps de Bourges. J'étais pas passé au Printemps de Bourges, Marie Zambon.
Ça, je pense pas, mais peut-être. Je connais pas toute sa vie à partir du moment où je l'ai connue. Et Marie, j'avais très envie aussi de vous la faire découvrir.
Redécouvrir, quand même, oui.
Parce que c'est quelqu'un aussi que je trouve exceptionnel. Et puis c'est une des premières personnes aussi avec qui j'ai commencé à chanter. On avait fait un duo tout au début, on chantait et on s'accompagnait sur nos chansons mutuellement, voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui a un univers, donc on pourrait penser très opposé au mien, puisque elle écrit beaucoup et elle vit dans le Beaujolais. C'est une vigneronne aussi en même temps qui fait un excellent vin, hein.
Oui.
Par la même occasion, voilà. Et qui s'appelle donc le Moulin du Prince. C'est un vin de Moulin du Prince. Et Marie donc écrit beaucoup sur cet univers qui est plus champêtre, on va dire. Et voilà, quand on avait commencé à chanter ensemble, ça percutait un petit peu nos deux univers à la fois. Très opposée, en même temps, je pense proche. Elle me touche énormément, quoi.
Mais d'ailleurs, bon, il y a de très belles chansons dans cet album où tu évoques justement les racines des gens qui viennent, parce que à une époque, effectivement, beaucoup de gens venaient directement de la campagne avant d'arriver dans ces grandes bars, dans ces grands.
Ah oui, énormément. personne ne venait de Paris, quoi, en tout cas.
Non. Et c'est vrai que les gens venaient avec leur culture traditionnelle, la culture de la soupe, la culture de...
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai que les jardins ouvriers remplaçaient un petit peu le jardin qu'ils avaient quand ils étaient en province.
Oui, et puis nous, c'est vrai que du coup, ça faisait un mélange. Par exemple, je me souviens dans les recettes, moi, il y a des choses qu'on faisait, on pensait que c'était très local, et en fait, ça nous venait des gens du Nord, ou etc. Je pense à comment ça s'appelait, je sais plus quel plat du Nord, on mangeait des choses et on pensait que voilà, c'était né ici, mais non, tout venait de partout, quoi, et ça faisait un mélange culturel.
En fait, c'était un très beau melting pot, en fait, C'est dommage que justement cette richesse, on la trouve encore dans certains quartiers, ce brassage des cultures.
Oui, quand on cloisonne pas les gens, on la trouve encore. Oui.
Et le problème, c'est qu'effectivement, on a eu tendance à repousser les gens qu'on ne voulait pas voir.
Il y avait des cultures très différentes, on a commencé à les...
Et c'est de là que tous nos maux sont nés, et on est loin de les avoir résolus.
Ah oui.
Alors on va écouter Marie Zambon.
Ben voilà.
Y a pas le feu, mais quand même, faudrait se bouger contre la haine qui met le feu au mur sous les affiches pleines d'injures et qui se fiche de nos cœurs outragés, de nos yeux affligés. Mais comment, dès pourquoi on est arrivé là? Debout, réveillez-moi, je dors. Debout, je ne veux plus faire le mort. Debout, y a de la vie encore qui gueule dehors. Y a pas le feu, mais
ça saigne. Elle est sous nos fenêtres, la haine. Qui sait prendre des gants, tisser sa toile, caresser dans le sens du poil et verser dans nos têtes ces breuvages infects. Et comment et pourquoi on est arrivé là? Debout, réveillez-moi, je dors. Debout, je ne veux plus faire le mort. Debout, il y a de la vie encore qui gueule dehors. Y a pas le feu, mais ça mène. On sait, au fond des urnes, la haine. Si près du plein des voix, pour main de fer. Langue de bois et croix d'enfer. Encore un petit pas, on refait Treblinka. Mais comment, mais pourquoi, on est arrivé là? Debout, réveillez-moi, je dors. Debout, je ne veux plus faire le mort. Debout, y a de la vie encore qui gueule dehors. Réveillez-moi, je dors debout. Je ne veux plus faire le mort debout. Y a de la vie encore qui gueule dehors debout.
Ah, c'est, ça me fait plaisir parce que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce que tu viens de nous faire écouter, Marie Zambon. Alors bon, elle a un site, on peut la retrouver peut-être en tapant simplement sur un moteur de recherche.
Oui, Marie Zambon, mais effectivement aussi en tapant le Moulin du Prince.
Le Moulin du Prince, ça c'est si on veut se commander du vin.
Oui, voilà, mais je pense que c'est tellement lié, les bonnes choses sont tellement liées. Et là, en tout cas, vous tomberez directement.
On va l'inviter en émission. Mais voilà. C'est vrai, c'est très très beau. C'est il y a une belle mélodie. C'est
voilà, elle écrit très bien aussi.
Ouais, oui. Ah bah t'as bien fait de venir.
Eh ben voilà.
Alors dans ton livre, il y a aussi une chose moi qui m'a rappelé plein de souvenirs d'enfance, c'est l'histoire des cabines d'essayage à double fond.
Ah oui, t'avais entendu parler de ça aussi.
Ah ouais. Parce que il y avait tu nous le situes chez Tati, mais moi, j'ai entendu ça sur le boulevard Saint-Michel, faut pas y aller. Parce que
c'était la traite des Blanches, on parlait beaucoup de la traite des Blanches.
Oui.
Et la traite des Blanches, on nous disait que c'était, on disparaissait dans les cabines d'essayage. Principalement, et qu'il fallait pas, par exemple, aller chez Tati, hein, qui venait d'ouvrir et qui était noir de monde. Et, du reste, je pense qu'il y a eu des enlèvements, hein. Sans doute, j'en sais rien, mais, toujours est-il que, mais moi, j'ai fait des cauchemars. Hein. J'en ai fait des cauchemars, ça. Je voulais jamais aller essayer quelque chose dans une cabine d'essayage. Je regardais toujours s'il y avait pas un double fond où on nous tirerait, quoi.
Oui.
Il y a Gégé qui veut nous dire quelque chose.
Oui, vas-y, Gégé, parce que cabine.
On avait un peu oublié, enfin, effectivement, ça, et ça rappelle ce moment-là, un peu, oui, traumatisant, et cette grande rumeur qui courait.
Voilà.
Et oui, on a vécu ça, oui, effectivement. Oui. Sans qu'il y ait eu jamais de
témoignages.
De preuves.
Oui.
Ah, mais c'est sûr que la rumeur, ça permet de faire courir beaucoup de choses.
Ouais.
Et c'est ce qui marque dans une vie que l'on peut
dans
remettre ensuite en texte et en chanson. Et ça fait rappeler à toute une un groupe de gens, une communauté de voilà, ces moments-là, quoi. Et c'est important,
le pouvoir des souvenirs, c'est quelque chose. Hein.
Ah oui. Moi, je vais dire que, bah, effectivement, hein, je suis comme les autres, je prends de la bouteille. Et de temps en temps, comme ça, il y a des choses qui me reviennent. Tu connais bien sûr Gérard Pierron.
Oui.
Et Alain Lepresse, quand il chante Peau de lapin peau.
Ah oui.
Moi, je me souviens que dans mon HLM, parce qu'à cette époque-là, les gens, ils avaient encore de la famille en province, et souvent, ils ramenaient des lapins.
Ah oui.
Eh bien, dans la cour du HLM, on avait des gens qui rentraient, qui criaient « peau de lapin, peau !» parce qu'ils achetaient des peaux de lapin.
D'accord. Ah oui. Ouais. Moi, je ne les ai pas connus.
Ah, dans les campagnes, oui, je l'ai vu. Mais moi, je l'ai même vu dans mon HLM. Et ça, c'est ça qui est marrant, quand même.
Eh oui.
Ça fait de sacrés souvenirs. Mmh. Et j'aime bien, moi, les gens qui nous en parlent bien. Alors, il y a eu aussi une chose, moi, qui m'a bien fait rigoler dans ton livre, c'est le jour où tu décides de te couper les cheveux. Parce que pour les filles, effectivement, c'était peut-être le geste de révolte de se couper les cheveux par rapport à la lourdeur de l'éducation. La fille, ça doit avoir les cheveux longs.
Ouais.
Pour les gens de ma génération, c'était le contraire. C'était se laisser pousser les cheveux, pouvoir se faire pousser les cheveux qui était...
Ah mais chez nous aussi, pour les garçons, c'était...
C'est ça, pour les garçons,
les,
oui.
Les garçons, avoir le droit de se laisser pousser les cheveux, c'était dans cette époque-là, bah, c'était dans les années 70-75, hein. Et c'était pas gagné. Mais par contre, pour les filles, mais je pense qu'on était quand même pas dans la majorité, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient les cheveux courts, mais chez nous, non, hein, ça c'était pas possible. Et puis c'est surtout que c'était cheveux longs et nattes obligatoires, quoi, jusqu'à 18 ans. Alors, inutile de te dire que quand t'as un acte majoritaire à faire vraiment marquant pour tes parents quand ils t'ont infligé ça, bah c'est de te couper les cheveux le plus court possible le jour de tes 18 ans. Et quand t'as un père photographe, c'est de lui envoyer une photo maton. Parce que les photographes, les photomatons, c'était leurs ennemis publics numéro un. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et la vengeance suprême n'a pas attendu les 9 heures du matin du jour de mes 18 ans. Voilà.
Et j'aime bien d'ailleurs, tu dis la photo maton.
Eh oui. Et maton, il y a quelque chose. Dedans d'un petit peu...
Ben oui, voilà, c'est ça, c'est la merveille de jouer avec les mots et de d'avoir... Ça, c'est un grand bonheur de pouvoir utiliser les mots, leur faire dire plein de choses.
Ben, c'est-à-dire, quand je pense que quand on les aime, on se rend compte de la richesse des mots, suivant, surtout dans l'oralité, quoi. Souvent, la façon dont on le dit, dont on le porte, là où on appuie, c'est une patte, hein, vraiment un mot.
Oui.
Voilà.
On va te retrouver, parce qu'il faut quand même qu'on écoute certaines de tes chansons. Et puis, on va dire aussi tout de suite après où on peut t'entendre, parce que ça,
ah
c'est
oui.
très, très important. Mmh. On va écouter une chanson, moi, qui m'a beaucoup plu, pour plusieurs raisons. D'abord, par le texte, mais aussi par la musique. Parce que dans ces deux, dans cette chanson-là et dans celle qui suit, dans cette chanson-là, on a un peu de la musique klezmer. Enfin, ça doit être voulu. Je sais pas qui a décidé des...
Pardon, dans quelle chanson?
Dans celle qu'on va écouter tout de suite.
Ah oui.
Qui les saintes.
Les saintes.
C'est de la musique, je sais pas, gitan.
Non.
Il y a pas de la clarinette derrière, il y a...
Alors je me souviens plus de l'accompagnement des saintes. Oui, je crois qu'il y a de la clarinette, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Michel Taïeb, donc qui a fait cette direction musicale, est quelqu'un de très éclectique, qui mélange comme ça des choses. Et il a écrit d'ailleurs un autre morceau qui s'appelle Roots.
Oui.
Peut-être que j'aimerais bien d'ailleurs qu'on l'entende après.
Il n'y a pas de problème.
Voilà, c'est une de ses compositions et où il a fait appel pour les clarinettes, donc à un musicien que j'ai pas cité tout à l'heure, mais qui s'appelle Michel Chic, que j'ai pas le plaisir encore d'avoir rencontré, si ce n'est à travers le travail qu'il a fait sur ce disque que j'ai trouvé très beau, quoi. Et voilà, donc effectivement, il y a sans doute toutes ces petites influences que Michel Taïeb a, qui est quelqu'un qui est né aussi dans le 92, hein. Il était de Gennevilliers et qui a c'est pareil, un amalgame de d'influences en lui, c'est merveilleux, quoi.
Mais oui, c'est ce que dit Pierre Barou, c'est le pollen dont on s'est nourri.
Eh oui, c'est ça.
Ouais. Ouais. Et exactement. C'est vrai qu'à partir du moment où on est réceptif à toutes les cultures, on arrive à faire une synthèse, une osmose de toutes les cultures.
Et c'est à réinventer, ouais, des choses.
Alors écoutez bien cette chanson, donc Les Saintes, et écoutez bien aussi la musique.
Un diamant dans la nuit, l'année de la comète, un chemin sous la pluie, et le phare à minuit, et la route s'enfuit, et les jardins de dunes. La rose qui s'envole et le cri d'un bateau et la route s'enfuit. savane, les toits des caravanes, la courbe des chevaux et l'odeur des sabots. La chanson ambulante, la rougeur des taureaux et cette fleur tremblante qui suit le bord de l'eau. Tous nos chemins, toutes nos prières se retrouvent au Sainte Marie de la Mer.
Voilà, ça c'est vrai que c'est un très bel album. Alors, où peut-on t'écouter dans les temps qui viennent?
Alors, eh bien, pas plus tard que demain, à partir de demain, et tous les mardis du mois, j'ai le plaisir de jouer donc au Limonaire, 18 Cité Bergère.
Oui.
Voilà, c'est le soir. Le numéro de réservation, c'est le 01 45 23 33 33. C'est un restaurant à chansons. Je pense que
oui,
beaucoup de gens le connaissent.
Beaucoup de nos auditeurs le connaissent, effectivement.
Il est plus à présenter. Et voilà, donc on peut y manger à partir de 20h. Et puis le spectacle a lieu après. Ou bien venir uniquement pour le spectacle. Mais très sincèrement, si vous voulez être bien placé.
Oui.
Et puis passer, qu'on passe un moment ensemble.
Ah oui,
y compris, enfin.
C'est un lieu très convivial.
Et pour la rencontre, oui. Voilà, c'est bien de venir pour manger. Voilà.
Bon.
Et donc ce sera tous les mardis d'avril,
voilà,
au Limonaire.
Tous les mardis d'avril. Alors ça, c'est mis dans un coin de la tête. On va le redire tout à l'heure et on va l'annoncer dans les autres émissions, bien sûr.
C'est très gentil, merci.
Alors, parmi les gens que tu veux nous faire découvrir, il y a aussi Erwan Pinard.
Eh oui. Alors Erwan Pinard, c'est un monsieur qui habite à Lyon, c'est un Lyonnais, que je suis allé voir un petit peu par hasard parce qu'il était accompagné par un musicien qui s'appelle Aiko Wilhelm. Et voilà, c'est un ami, donc j'étais venu les voir et il m'a scotché. Quoi. C'est vraiment un artiste de scène à voir et à entendre parce qu'il a vraiment des choses à dire, mais il le dit mais d'une façon qui est incroyable. Enfin, moi j'ai eu un coup de foudre et donc j'avais envie de vous faire partager ça aussi. Voilà, il s'appelle Erwan Pinard.
Et ben on va en profiter.
Oui.
Francs, révolté à ce sourd, révolté à 30 centimes d'euros, révolté par devant, résigné là-dessous, révolté, la société à bon dos. Je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas les jupes de ta mère, mais je peux réparer la lumière. Révolté au long temps, révolté au long cours, révolté, tu ne vis jamais rien que les dons. Révolté, j'ai peur, maman. Révolté, boum, boum. Révolté, allez, gueule, gueule. Ça tient chaud. Je ne suis pas Dieu le Père. Je ne suis pas les jupes de ta mère, mais je peux réparer la lumière.
Voilà, Erwan Pinard, ben c'est pareil, ça fait partie de, tu vois, chaque artiste qui vient nous voir apporte son pollen, et c'est ça, moi je trouve ça merveilleux.
Eh oui, c'est ça qui est bien, et puis merci de faire ces relais-là, c'est tellement important.
Ben oui, mais c'est pour nous aussi, hein. Ça nous rend un peu intelligents, parce que on n'arrive pas à connaître tout le monde,
ben non.
Et donc ça nous ouvre les oreilles et les yeux, et ça c'est très bien. Il y a deux personnes avec qui t'as cheminé un peu, il y a Michel Bernard, il y a Anne Sylvestre.
Ouais, voilà, ce sont surtout deux personnes qui ont été extrêmement importantes et déterminantes dans le chemin que j'ai pris, quoi, de la scène. Et la première a été Michel Bernard, que j'ai rencontré un petit peu par hasard. Enfin, j'étais allé la découvrir, je crois qu'elle passait à Bagneux dans Les Nuits Noires de Monde.
Oui.
C'était en 1990.
Oui.
Et en fait, en rencontrant Michel, on a discuté et elle cherchait une remplaçante sur une pièce de théâtre, une tournée nationale qui se passait avec une compagnie de Montluçon. Et j'ai remplacé Michel en fait pendant un an sur une tournée dans une pièce de théâtre, hein. Et au bout de cette année-là, en fait, on se connaissait pas, puisque à chaque fois que je jouais, elle était pas là. Donc je suis allé la connaître chez elle à Saint-Julien-Molin-Molette dans la Loire.
Ouais.
Et puis je suis jamais reparti. Et c'est en rencontrant Michel que j'ai commencé à écrire des chansons, parce que auparavant j'écrivais pas, quoi. C'est vraiment à son contact, et puis elle m'a fasciné parce que c'était des choses que j'avais jamais entendues. Et puis voilà, et à travers ce chemin donc que j'ai continué très proche de Michel, puisque j'ai fait partie aussi de son équipe de Musique à l'usine, l'association qu'elle a montée, etc. Autour de la chanson, j'ai eu le grand honneur et le grand plaisir un jour de rencontrer Anne Sylvestre, qui est venue me voir chanter en première partie de Marie-Paul Bell et qui a été ma première souscriptrice sur mon premier album qui s'appelait Zelda Cœur de Vache. Elle a eu un coup de foudre et elle me l'a bien témoigné puisqu'elle m'a après produit mon deuxième disque et qu'elle m'a emmené avec elle en tournée et j'ai été produite, même mon spectacle a été produit par Anne Sylvestre, voilà, pendant presque 2 ans et pour moi bah c'est une des grandes rencontres magiques de ma vie quoi. C'est une très grande dame.
Bah oui,
bien sûr. Tout comme Michel Bernard aussi bien sûr. Et voilà, et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai rencontré Éric Nadeau. On s'est connus autour de d'Anne Sylvestre et Éric voilà a fait un travail et il fait le travail qu'on connaît autour de
Tranche de scène, oui.
Voilà, de Tranche de scène qui est extrêmement important mais comme votre travail et c'est heureusement quoi qu'il y a des gens comme ça, c'est extrêmement précieux, extrêmement important d'avoir des gens qui ont cet engagement et cette qualité, cette foi et ce partage des choses.
Vous tapez tranche au pluriel de scène sur un moteur de recherche et vous avez tout de suite le site et tout le travail, tous les DVD réalisés par Éric autour des artistes et ça c'est très bien.
Oui.
Alors, on va. Il y a un monsieur. Moi, je suis allé écouter mardi dernier parce que c'est vrai que le lundi, on est toujours derrière ses micros. C'est Monsieur Romain Didier. Et il sort un nouvel album, très beau, un très beau spectacle où on retrouve bien sûr, comme dans tout spectacle, des chansons anciennes. Et il y a aussi des chansons nouvelles, et celle-là, ben, j'aimerais bien que tu l'écoutes. Alors, il est, faut que je le dise tout de suite, parce que sinon je vais plus y penser, il est rue des Plâtrières, 7 rue des Plâtrières au 20e théâtre, c'est à 20h, 20h30, les lundis et mardis, et ce, pendant 3 semaines.
Ah mais fallait pas le dire pour les mardis, comment on va faire?
Trois mardis, quatre mardis possibles. Voilà. Et je voulais le dire parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait partie de la du même cheminement, de qui regarde les gens, qui apporte énormément.
Ah oui, Romain Didier.
Avec une grande sagesse. Alors on va écouter un nouveau titre. Ça s'appelle Je suis canard. Et écoute-le parce que ça va te faire penser un petit peu. Bah.
Ah mais et puis le
Amazon.
Titre, oui, ça m'intéresse bien. Oui.
De notre mare, c'est fréquenté, il faut voir. Des palmipèdes d'une race à part qui me font peur, rien qu'à les voir. Ils ont des plumages café au lait, et quand ils nagent, c'est en bière. Je trouve ça dommage dans le paysage, ce désordre de sillage. Je suis canard. Chez canard, de père et mère canard. Je suis canard, de chez canard, et je suis fier de ma mare. Ils font des petits, ils ont que ça à faire. Ils boivent mon eau, mangent mes verres. Ils prient des dieux qui n'existent pas. Même Walt Disney, ils connaissent pas. Quand je les croise, je baisse le bec. Ils sentent la vase, c'est infect. J'ai l'odorat très délicat et j'aime pas ce que je connais pas. Je suis canard, de chez canard, de père et mère canard. Je suis canard, de chez canard, et je suis fier de ma mare. De notre mare, ça rit, ça chante, il faut voir. Je tiens plus mes cales, et certains soirs, y en a qui traversent dans le noir. Quand elles reviennent, comme c'est curieux, y a des diadèmes dans leurs yeux. Peut-être qu'une nuit, sans faire de bruit, je traverserai moi aussi. Je suis canard, de chez canard, de père et mère canard. Je suis canard, de chez canard, et je suis fier de ma mare. J'y suis allé, droit comme un i, j'en suis rentré vaguement gris. Depuis je danse, je chante, je ris, et je nage en pied moi aussi. Et je nage en pied moi aussi.
Et ben voilà, comme quoi tout n'est pas perdu, hein, c'est pas parce que les gens sont différents en face que on va toujours les regarder, les montrer du doigt et ne pas aller voir ce qu'ils ont de richesse à apporter.
C'est très bien.
Ouais. Alors c'est vrai que 1h30 avec Claudine Lebec, ça passe à une vitesse folle. Et en plus, tu es venue avec ce petit accordéon dont tu nous parles si bien. Alors, on va peut-être le faire travailler un petit peu.
Ben, on va essayer, oui.
Qu'est-ce que tu vas nous faire, alors?
Une chanson.
Ah, oh, c'est original.
Et ben voilà, je vous dirai le titre après.
D'accord.
Tombe la pluie fine et légère comme il fait clair au fond de tes yeux. Mais cette pluie qui te revient, est-ce un souvenir qui va, qui vient? Tombe une goutte d'eau salée comme ta robe semble légère, un souvenir comme un éclair. Mais ce ruisseau dans l'herbe tendre, cette poignée d'herbe coupée, ne me dit rien. On s'est aimé. Et cette odeur, l'odeur du foin, ton petit prix, un souvenir qu'on a planté. De couteau, une lame trempée d'acier, un éclair au fond de mon ventre, un souvenir de toi qui rentre. Tombe une goutte de sang chaud comme ta robe semble fragile, mon souvenir tient qu'à un fil. Elle s'en va, elle s'en vient, ne me dis pas, ne me dis rien, ne me dis pas qu'on s'aimait pas. Elle s'en va, elle s'en vient comme ta robe semble petite, un souvenir de toi me quitte. Tombe la pluie fine et légère comme il fait clair au fond de tes yeux. Mais cette pluie qui n'arrête pas, est-ce un souvenir qui se retient pas? Un souvenir. Un souvenir.
Merci Claudine. Ça aurait été dommage quand même de pas le faire travailler en direct dans le studio. Hein.
Eh ben, merci. Ah. Ça me fait très
c'était
plaisir.
Un souvenir, bien sûr.
Voilà.
Et vraiment, c'est terrible parce que 1h30 en ta compagnie, ça passe vraiment trop vite. Trop vite. Alors, tu vas déjà nous promettre une chose, c'est de venir nous revoir.
Promis.
D'abord,
sûr.
Parce que il y aura d'autres livres.
Eh oui.
Et il faudra venir en parler. Puis il y aura sûrement d'autres albums.
Ah ben, j'espère aussi, oui, bien sûr, oui. Ouais.
Alors, avant que nous nous quittions, je vais déjà rappeler qu'on peut te retrouver donc tous les mardis du mois d'avril. Au Limonaire. Le Limonaire, c'est Cité Bergère, c'est
18 Cité Bergère.
18 Cité Bergère, bon, enfin bon.
Métro,
C'est Grand Boulevard, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais. Mieux vaut y aller d'ailleurs en métro qu'en voiture, parce que c'est pas un quartier facile pour garer.
Oui.
Sinon, il y a des parkings, mais ça coûte très cher, les parkings dans Paris. Et puis, on a encore aussi au Forum Léo Ferré, alors, vendredi 8 et samedi 9, Gérard Morel et le duet qui l'accompagne. Le vendredi 29 avril, il y a carte blanche à Alain Orange. Et le samedi 30, il y a carte blanche à Alain Lepresse. Et le dimanche 1er mai à 17h, c'est Alain Lepresse. Mais c'est déjà complet. Et c'est terrible. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le Forum Léo Ferré.
Vraiment.
C'est un lieu où tu es déjà passé, le Forum Léo Ferré, non ?
Eh non, jamais.
Oh, bah, il va falloir que ça se fasse, parce que tu mérites très largement d'être là-bas.
Ah oui, j'aimerais bien, oui.
Voilà. Et puis, une fois que vous avez écouté Claudine Lebec, bah, allez donc écouter Romain Didier au 20e théâtre, 7 rue des Plâtrières. Et, pour ce soir, mais non, il y a mon acolyte qui fait la rencontre Tintinabule. Bernard, si tu nous entends, on ne t'a pas oublié, mais c'est vrai que tu as déserté ces micros depuis pas mal de temps, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, je sais, alors, comme ça, brûle pour point, mercredi soir à Comble-la-Ville, donc c'est dans la salle... attendez, faut que je retrouve le petit papier. C'est une salle des fêtes, enfin, il y a Gérard Delahaye. Et puis, vendredi, et là, c'est pas à Comble-la-Ville, c'est, je vais vous le redire dans un instant, je reprendrai le micro après que nous ayons écouté la dernière chanson, il y a le trio EDF. Alors, EDF, c'est Erwan, Mylène Favennec et Gérard Delahaye. Et c'est du très, 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 très beau travail. Donc, vendredi 8, si vous avez l'occasion, allez là-bas. Alors, je vous redis dans un instant, c'est à Savigny-le-Temple, oui, je pense, effectivement. Voilà, mais on va le repréciser dans un instant. Et puis, je vous annonce pas nos invités des semaines prochaines. Il y a plein de beaux monde qui s'annonce. On aura entre autres Jean Vasca, que nous sommes allés écouter samedi dernier à Créteil, à la Cigale. Alors c'est pareil, c'est un lieu où tu pourrais très bien passer, parce que c'est
ah bah oui,
c'est super. Et alors voilà, Erwan, alors c'est en tout public effectivement, et ça se passe le trio EDF, c'est dans le centre des rendez-vous de la Fresnaye, et c'est à Comble-la-Ville. Ah oui, c'est à Comble-la-Ville, effectivement. Voilà. Et ça, c'est à 20h30, à ne pas rater. Claudine, on va te remercier d'être venue jusqu'à nous.
Mais c'est moi qui
vous remercie. Je vais refaire encore un grand merci à Eric Nadeau, parce que
oui,
je trouve qu'il a été un merveilleux entremetteur.
Oui.
Et là, il ne faut pas renier ce genre de choses.
Oui.
On a passé une soirée beaucoup trop courte.
Pareil pour moi.
Tu reviens quand tu veux.
Eh ben merci.
Bernard. Merci à l'ami Gégé, à la technique, parce que c'est sans lui on ne serait rien. Et puis restez bien sûr à l'écoute de Radio Libertaire, de la Pente du Carmel. La vie est magnifique. Ils sont ah oui, Gégé voulait un petit texte. Oui, effectivement.
Ah oui.
Sur
Gégé voulait lire
premier,
un petit texte.
Premier film. Vas-y Gégé, on te donne la parole.
Extrait d'Amazon.
Et alors on se quittera en écoutant Roots.
Voilà.
Alors.
Un texte extrait du livre de Claudine Lebec. Premier film. Le premier film de vacances. Man a tenu la caméra à l'envers pendant tout le mois. Si bien qu'on a un film où on est tous la tête en bas. Depuis, on l'a remonté à l'endroit. Et c'est beaucoup mieux. Parce qu'on se voit tout faire en marche arrière.
C'est vrai que voilà, c'est un petit court-métrage.
Voilà.
Merci Claudine.
Merci.
À tout bientôt.
Merci à vous deux.
Et bien sûr, on va se quitter en écoutant Roots. Allez sur le site de Claudine Lebec pour acheter ce livre-disque merveilleux ou le disque.
Merci.
À bientôt.
Bonne soirée.